Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Faire parler les jeunes Français aux Français en français, à l'oral, mais surtout à l'écrit. Voilà l'ambition du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Un peu comme son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, il veut imposer aux CM1 et CM2 une courte dictée quotidienne. Autre prescription dans une note interne, faire lire et écrire aux élèves au moins 2 heures par jour. Il faut savoir qu'à peu près un quart des sixièmes n'ont pas les acquis de base en français, selon les évaluations. Nous sommes avec Jean-Paul Brighelli, enseignant, essayiste, grand connaisseur de l'éducation nationale. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Avec nous également Sébastien Vieille, il est secrétaire national du SNALC, il est également professeur d'anglais. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir et bonsoir à Jean-Paul.
Bonsoir Sébastien.
Alors Jean-Paul Brighelli, je commence par vous. Comment en est-on arrivé là, je veux dire, à favoriser des classiques, la lecture, la dictée?
On en arrive là, vous avez raison, c'est un marronnier. Hein. Alors on comprend bien que si Najat Vallaud-Belkacem et Jean-Michel Blanquer, qui étaient à l'opposé du spectre, insistaient l'un et l'autre sur la dictée, c'est qu'il y avait un malaise. On est arrivé là parce que on a cessé d'enseigner véritablement la langue française. On a cessé d'enseigner la grammaire, la syntaxe, l'orthographe. On a interrogé les enfants de façon à ce qu'ils construisent eux-mêmes leur propre savoir. Et je vous mets au défi, tout cultivé que vous soyez, d'expliquer à partir d'une phrase type l'accord du participe avec le COD antéposé. On a déconstruit complètement l'école, moyennant quoi on essaie de colmater les brèches, de mettre des sparadraps par-ci par-là.
Mais il y a des vertus dans la dictée, c'est un sparadrap vraiment ?
Il y a certainement des vertus à condition d'avoir fait tout le travail préparatoire, c'est-à-dire d'avoir appris la grammaire, les conjugaisons, les règles d'accord, etc. Ce qui ne se fait plus, en tout cas pas d'une façon systématique, pas d'une façon, on va dire, verticale. On suggère aux enfants de comprendre pourquoi la plante verte ou les plantes vertes, ça diffère. Moyennant quoi, après, quand ils tombent sur « ils les plantes », ils mettent « sa plante », ça ne les choque pas.
Alors, Sébastien Vieille, je vais vous demander votre constat à vous. Juste avant, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent intervenir. Appelez le standard d'Europe 1 au 3921 et vous passez à l'antenne. Alors, Sébastien Vieille, le niveau de français s'effondre pour vous aussi?
Bah, écoutez, on a les résultats d'un test, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, qui montre que 27% des élèves sont en difficulté avec le français en sixième. Que ce soit grande difficulté. 27%, c'est donc plus d'un quart des élèves. Et quand on dit en difficulté, il faut bien se rendre compte que c'est des jeunes qui n'ont aucune maîtrise réelle de toutes les choses dont vient de parler Jean-Paul Brighelli. Et je vais le rejoindre sur une chose. Vous parliez de la dictée à l'instant. La dictée, elle permet de se rendre compte. C'est une évaluation. Mais elle rend compte de quoi? Bah, du fait que les élèves ne maîtrisent absolument pas la grammaire et la syntaxe. Ça, c'est une évidence. Nous sommes pleinement d'accord là-dessus.
La dictée ne sert pas à grand-chose, en fait. On ne peut pas photographier les mots.
La dictée, elle sert, évidemment. Elle sert à manipuler les choses. C'est un exercice qui sert à manipuler les choses qu'on a apprises. Si on fait des dictées, si vous voulez, si on fait des dictées juste pour faire des dictées de mots, des choses comme ça qu'on a appris, c'est bien. Mais il faut en amont qu'il y ait eu de vrais cours sur la grammaire, la syntaxe, énormément de choses qui ne sont plus réellement maîtrisées aujourd'hui.
Et la lecture également, c'est très simple hein, ce que je dis, hein, mais
le
ministre propose de faire lire 2 textes de 1000 mots par semaine. Est-ce que c'est faisable déjà sur des élèves de CM1, CM2? Est-ce que c'était efficace selon vous, Jean-Paul Brighelli?
Ah bah écoutez, d'après le ministère, ce sont des chiffres tout à fait officiels, 45% des élèves entrant en sixième ne savent pratiquement ni lire ni écrire. Alors effectivement, 1000 mots, ça peut paraître assez peu ambitieux. C'est une page d'un livre de poche, hein, 1000 mots. Mais c'est certainement le maximum que l'on peut attendre en moyenne, hein, entendons-le bien. Il y a certainement des élèves de sixième qui dévorent Harry Potter ou les 3 mousquetaires tous les soirs, mais c'est pas une généralité. c'est le maximum que l'on peut attendre d'élèves que l'on n'a pas incité véritablement à lire et à lire des œuvres longues. Lorsque vous dites à une classe « bon, on va travailler sur telle œuvre », le premier réflexe, c'est « est-ce que c'est long ?»
Mais oui.
Parce qu'ils ne se voient pas en train de lire autre chose que de très courtes nouvelles. Vous voyez, parce qu'on a baissé les bras. Alors, Maupassant, oui, la chevelure, oui, mais Bel Ami aussi, vous voyez.
En CM1, CM2, vraiment, on peut aujourd'hui, hein, j'en viens à me poser la question, vous voyez.
Écoutez, Harry Potter, par exemple, et je sais que c'est très correctement écrit et que c'est passionnant.
Et c'est très
long. Et c'est très long. Ça a été beaucoup lu sur le créneau 8-12 ans. Voilà. Simplement, il y en a d'autres qui, pendant ce temps, passent leur temps sur TikTok. Il y a deux France là-dedans.
Oui. Il y a deux Français aussi. Hein. Il y a le français des livres et le français des réseaux sociaux, Sébastien Vieille.
Mm-hmm. Oh, absolument. Absolument. Et il suffit de passer quelques minutes pour se rendre compte que non. Non, toutes les choses ne se valent pas. Tout à l'heure, Jean-Paul a parlé de l'époque de Najat Vallaud-Belkacem, où on avait quand même des notes de service et voire même certains contenus de programmes de français qui laissaient entendre que lire un manuel pour une machine à laver, ça équivalait à lire un roman classique.
Oula.
Et que donc il fallait encourager la lecture comme compétence simplement de communication. Non, la lecture, c'est plus que cela. Et nous, au SNALC, on est plutôt d'accord hein, sur le fait de réintroduire de la lecture. Maintenant, nous, ce qui nous pose problème, c'est que le ministère définit quasiment une priorité par mois à l'heure actuelle. Ça a été les maths, ça a été les sciences, ça a été l'EPS, ça a été... En fait, nous, ce qui nous inquiète, c'est de savoir comment les collègues du premier degré vont se retrouver dans toutes les priorités qui sont définies à l'heure actuelle par le ministère. Nous, on est d'accord hein, sur le français, sur les mathématiques, ça nous va très très bien. Mais à un moment donné, il va falloir faire des choix parce que l'emploi du temps, il n'est pas extensible.
Jean-Paul Brighelli, Sébastien Vieille sont avec nous ce soir sur Europe 1. Vous nous appelez pour réagir au 39-21. On marque une pause et on revient dans quelques instants. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Nous parlons éducation ce soir, nous parlons du niveau de français des élèves de 6e avec deux enseignants, Jean-Paul Brighelli qui était essayiste, grand connaisseur de l'éducation nationale, Sébastien Vieille qui est professeur d'anglais et secrétaire national du SNALC. N'ayez pas peur de nous appeler, d'interagir avec nous au 39-21. Ces deux enseignants sont particulièrement bienveillants. Vous voyez, j'ai fait une faute de français tout à l'heure, ils ne me l'ont même pas fait remarquer. Alors, un autre enseignant nous appelle d'ailleurs au standard, c'est oui. Laurent, qui est professeur de oui. mathématiques, il nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir Laurent.
Oui, bonsoir messieurs. Monsieur Brighelli, je suis content qu'il passe chez vous là ce soir.
Ah ben, vous allez pouvoir échanger avec lui. Laurent, dis-moi,
oui.
pour les mathématiques aussi, on a besoin de bien parler français,
bien sûr.
Évidemment.
Mais je vous dirais, le français c'est la base de tout. Hein.
Évidemment.
Dans le français, nous on n'est rien. Alors, au niveau de la compréhension des énoncés, on retrouve de toute façon les difficultés. Moi je voulais surtout vous alerter sur la proportion que vous donnez là, par rapport aux statistiques nationales qui sont parfois faussées. Là. Vous dites un quart des élèves qui rentrent en 6e ne maîtrisent pas le français. Moi je dirais pratiquement la moitié maintenant. Hein. Sur un échantillonnage de 27 élèves, moi récemment là, j'ai corrigé des copies. Il y en avait une grosse douzaine qui faisait les fautes traditionnelles de confusion entre on, le verbe avoir avec le pronom, son, le possessif avec le verbe être au pluriel, et, la conjonction de coordination avec le verbe être, et des quantités de fautes de ce genre, des fautes de sens. En fait, je les retrouve pas simplement dans les copies de 6e, mais dans tous les niveaux, bien sûr, puisqu'en fait, le collège unique, c'est le cylindre. Vous rentrez dedans et vous en ressortez que plus tard avec encore plus de lacunes et de difficultés. Ça n'a rien réglé. Moi, j'avais une conversation avec une collègue de français ce matin. Elle disait, mais j'avais davantage d'heures de français en 6e. Je crois qu'il y en avait 6 heures avant. Elle en a beaucoup moins maintenant. Elle me disait, il faut nous redonner des heures de français. Et au primaire, il faut aussi leur redonner du français. Il faut arrêter avec des développements durables et tout un tas de conneries en parlant poliment qu'on leur fait faire. Alors, pour recentrer sur les matières traditionnelles, fondamentales, mathématiques, français, notamment, histoire géo, et c'est ce que je faisais moi en tant qu'élève il y a une cinquantaine d'années, hein. Et c'est ce qu'on a oublié, voilà,
alors
maintenant
ça
c'est plus ça.
Alors, l'autre annonce du jour par le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye,
hein.
L'approfondissement du français en 6e, mais aussi des mathématiques.
Mais non, il faut... s'assurer qu'avant...
On va remplacer, on va remplacer l'heure de technologie par une heure de soutien en français et aussi en maths. Vous voyez, je pense à vous.
Avec qui? Il n'y a plus de prof de maths. Il y en a de moins en moins de profs de maths. C'est comme quand on remet les maths en première et en terminale, il faudrait savoir avec quel prof on va le faire. Des vacataires, des... Voilà, c'est ça peut-être.
Alors,
que le ministre...
Vous voulez poser une question à l'un de nos intervenants de ce soir?
Non mais monsieur Brighelli, je suis d'accord avec lui. En fait, la dictée, ça vient à la fin. Il faut d'abord, au départ, au préalable, s'assurer que les règles de conjugaison sont maîtrisées, que la grammaire est maîtrisée, et la dictée ne fait que sanctionner en fait l'apprentissage qui doit être fait en amont, qui n'est plus fait de manière rigoureuse, ou alors mal fait compte tenu des horaires de français, des horaires de maths qui leur sont dédiés. Non, voilà, c'est ça. Donc en fait, la dictée, c'est un symptôme. Il faut d'abord traiter le mal à la racine, et éviter d'attendre la sixième pour que tout soit traité en sixième de manière paradrique, je ne sais pas si on peut utiliser ça, parce qu'en fait, il faut traiter le problème bien en amont, CP, CE1, CE2, CP surtout. Il faut s'assurer que les fondamentaux sont maîtrisés avant. Ça ne sert à rien d'attendre la sixième, c'est trop tard. Mmh. Voilà, c'est trop tard. Alors, ces mesures, c'est des mesures, en fait, pour amuser la galerie, de dire qu'il y a des collègues d'instituteurs qui vont venir au collège, déjà sur leurs horaires, ils en font assez. Sur la base du volontariat, j'aimerais savoir s'il y a beaucoup d'instituts qui vont venir de manière volontaire faire des heures en plus au collège.
Ah bah ça sera payé comme des heures supplémentaires. Alors
oui,
peut-être
et
que
comme
ça
si bien. Déjà les collègues de collège n'étaient pas assez capables de le faire aussi, enfin au passage, je vous le dis, on va vers la primarisation du collège, c'est un petit morceau ça, concédé à la fête que la sixième va être sûrement rattachée un jour à l'école primaire, c'est dans l'ambition de pas mal de politiques, ça, de primariser le collège.
Alors, merci de témoigner ce soir sur Europe 1. Laurent, je rappelle que vous êtes professeur de mathématiques dans le Lot-et-Garonne, hein, c'est bien ça ?
J'essaye de l'être. De plus en plus de difficultés à l'être.
J'aimerais qu'on entende Sébastien Vieille, qui est secrétaire national du SNALC, hein, sur cette heure d'approfondissement que veut instaurer le ministre de l'Éducation nationale en 6e à partir de l'année prochaine. On remplace la technologie. La technologie en 6e, ça servait à quelque chose d'ailleurs, Sébastien Vieille ?
Bien sûr que ça servait à quelque chose. Parce que cela permettait de découvrir... d'éléments numériques. Dès la sixième, oui, pourquoi pas. Écoutez, moi, quand j'étais élève, on avait de la technologie en sixième. Bon, on faisait des choses différentes de ce qui se font actuellement, mais ça existe et on fait des choses tout à fait bien en sixième en techno. Mais le problème avec ce qui va être fait là, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que c'est soit mathématiques, soit français, alors qu'il y a des difficultés dans les deux domaines, et elles sont évidentes. Hein. Et surtout, moi j'aimerais, et j'ai posé la question au ministère, savoir comment ils vont faire pour faire venir des professeurs des écoles. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que dans la note de service qui est parue aujourd'hui, on dit notamment par des professeurs des écoles, parce que je pense que le ministère se rend compte que ça sera très très compliqué, parce que les professeurs des écoles, ils ont cours, hein. Ils vont pas abandonner leurs élèves de primaire pour venir au collège. Le ministère, je crois, pense au mercredi matin, mais ne serait-ce qu'à Paris, qui est quand même un petit peu une grosse ville, les cours, ça existe le mercredi matin dans le primaire. Donc là, je ne sais pas comment ils vont faire. Donc très certainement, ce sera pas toujours des professeurs des écoles. Et puis, une heure par semaine, c'est bien, mais quand on calcule le nombre d'heures qui ont été perdues depuis des années en français, que ce soit en école primaire et en collège, on va pas rattraper en une heure. Et par ailleurs, là où je rejoins ce qui a été dit par le collègue de mathématiques, et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit au ministère récemment, c'est en amont qu'il faut prendre le problème. C'est avant la sixième qu'il faut éviter d'avoir des élèves qui passent d'une classe à l'autre en accumulant les difficultés. Parce que les difficultés, elles s'accumulent. Et puis, on a donné une recette très très bête hein, au ministère, mais bon, on est peut-être dur dans notre analyse. On estime que il faut peut-être qu'il y ait un travail à la maison qui existe, parce que ça n'existe plus. Mmh. Et quand on a perdu des heures de cours, si on ne donne pas de travail à la maison pour faire écrire, pour faire lire, pour faire travailler, c'est compliqué. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que des leçons qui sont faisables à l'école primaire à la maison. Il n'y a plus de travail d'écriture et de choses comme ça. Donc c'est compliqué. C'est compliqué.
L'enseignant et essayiste Jean-Paul Briguellier est également notre invité ce soir sur Europe 1. Ça servait à quelque chose ? Tiens, je vous pose la question à vous aussi. La technologie en sixième ?
Alors,
fallait la sacrifier ?
On est en train de repenser les programmes. C'est un scoop là que je vous donne. Ça se fera, je pense, pour à partir de septembre prochain. Il faut bien comprendre deux choses. Premièrement, si on veut se recentrer sur les fondamentaux, il va falloir sacrifier certaines matières, je vais dire annexes. Il est essentiel de refaire des maths, de refaire du français, de refaire de l'histoire de façon chronologique, de refaire de la géographie sérieusement. Ce sont quatre pôles vraiment essentiels. Deuxièmement, sur la question de qui va faire cette heure supplémentaire en sixième, moi ça me laisse tout à fait rêveur que l'on compte sur des professeurs des écoles qui se sont avérés dans les 5 ans qui ont précédé incapables d'apprendre les fondamentaux aux élèves qui arrivent en sixième et qui vont arriver maintenant en sixième, là, comme ça, avec des élèves qui ne connaissent pas du tout, une heure de temps en temps, et rétablir la situation. On est dans la fantasmagorie la plus pure, là. C'est aux enseignants du collège d'avoir une ou deux heures de plus par semaine de façon à approfondir les fondamentaux. Et si on cherche des heures, je vais vous dire, on fait comme il y a 30 ans, on travaille le samedi matin. Alors ça va pas faire plaisir aux parents qui veulent partir en week-end, mais je vous le dis, il y a 80% de la France qui ne part pas en week-end, vous voyez ?
Alors, ce soir, d'un côté Sébastien Vieille, de l'autre Jean-Paul Briguelli, puis il y a les auditeurs d'Europe 1 également qui appellent, qui suivent nos échanges passionnants. Gérard nous appelle de la région parisienne. Bonsoir Gérard.
Bonsoir.
Alors vous voulez réagir sur la dictée, je crois.
Oui, sur le français. Je m'appelle Gérard, je suis né à la fin des années 30, avant la Deuxième Guerre mondiale.
Ah, et en la 45, dictée, ça vous connaît, 40... ça, alors, Gérard?
Pardon?
Vous connaissez la dictée, ça?
Oui, je connais la dictée. Je n'étais pas un bon élève en général. C'était l'époque où le bac, c'était les deux bacs. Pour avoir les deux bacs, ça m'a pris 4 ans, j'ai redoublé. Mais, à l'époque, le français m'a bien aidé, d'abord à comprendre les mathématiques, à comprendre ce que je lisais, et surtout... La grammaire, la syntaxe était très importante, parce que si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, vous ne vous faites pas comprendre, premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il est indispensable de revenir à une notation qui était épouvantable à mon époque, mais elle a produit des résultats. Dictée, c'était simple, 5 fautes 0.
5 fautes, comme le permis de conduire.
Et j'ai fait toutes mes études au lycée Condorcet à Paris. D'abord au petit Condorcet, ensuite au grand Condorcet, et à chaque fois que j'ai réussi quand même le bac, le premier comme le deuxième, chacun au bout de 2 ans, c'est grâce au français où j'avais une note à chaque fois excellente. Et encore aujourd'hui, je parle au subjonctif. Rappelez-vous les Horace et les Curias. Compte 3, que voulez-vous qu'il fît, qu'il mourut? Ben oui, c'est ce qu'il faut dire, c'est normal.
Merci beaucoup Gérard de nous rappeler ce qu'était l'école avant. Elle était sans doute plus sévère, Jean-Paul Briguelli. 5 fautes, c'est 0.
Alors, c'est pas forcément 5 fautes. Je suis pas un acharné du zéro faute, etc. Ça arrive à tout le monde d'en faire. Le problème, simplement, c'est qu'on peut faire des fautes d'inattention, mais les fautes qui se font actuellement... dans des textes qui, en sixième, sont des textes phonétiques, hein, complètement. Phonétiques, et parfois, croyez-moi, il faut lire les copies à voix haute pour comprendre ce que l'élève a voulu écrire. Tellement on est dans le... l'embrouillamini total. Bon, il faut bien réaliser qu'il y a tout un travail à l'école primaire qui ne se fait plus. Qui ne se fait plus du tout. On a beaucoup chargé la barque, on a dit oui, il faut les initier à l'écologie, à la responsabilité, au savoir manger, etc. Et pendant ce temps, vous avez un député de la majorité présidentielle qui nous a dit il y a 2 ans que Aya Nakamura était le modèle du français tel qu'il devait se parler. Alors il faudrait savoir quand même, il ne faudrait pas tenir un double langage. Le modèle du français tel qu'il doit se parler, c'est La Fontaine, c'est Victor Hugo, c'est Lamartine, c'est Maupassant, dont on parlait précédemment.
Prosper il faut revenir. Il y a la dictée de Prosper Mérimée, qui est très célèbre aussi, qui est particulièrement
difficile. Écoutez, si on y va, si vous voulez, alors écoutez bien, hein, quel exigu qui ait pu paraître à côté de la somme due, les arts qui étaient censés avoir versé à maintes et maintes fusillés la douairière ainsi que le marguillier, alors essayez de demander à un élève actuel de justifier l'orthographe de censé et est et de versé et es. Vous voyez, c'est ça la dictée de Mérimée, c'est ça le véritable problème orthographique.
C'est presque aussi incompréhensible qu'une chanson d'Aya Nakamura. Hein.
Absolument. Mais simplement, Mérimée l'avait fait exprès, lui. Vous voyez ?
Oui. Alors, on était dans les codes d'avant. J'aimerais qu'on aborde le vieux débat qui revient depuis hier et ses déclarations de la première dame, c'est celui sur l'uniforme. Faut-il le réintroduire à l'école ? Alors là, ça n'a plus rien à voir avec le niveau de français. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, messieurs. Je commence par vous, Sébastien Vieille. L'uniforme.
Je vous avoue que, très franchement, je crois qu'on a d'autres chats à fouetter. Là, on vient de parler d'un sujet qui est extrêmement sérieux, c'est le niveau de français des élèves, le niveau de mathématiques. Alors, bon, on va quand même entrer dans le débat, c'est-à-dire que l'uniforme peut permettre, je dis bien peut permettre, de gommer certaines inégalités sociales. Ça, c'est le discours que l'on entend. Étant prof d'anglais, je peux vous en parler d'autant plus, parce que vous savez que outre-Manche, on pratique beaucoup d'uniformes, mais en réalité, les différences sociales, elles sont pas gommées tant que ça. Mais voilà, et par ailleurs, ça pose
l'argument de la première dame, ça fait gagner aussi du temps et de l'argent. On prend le temps de choisir sa tenue le matin et les parents d'élèves dépensent moins d'argent dans des tenues, une tenue différente chaque jour. Ça s'entend.
Alors, les parents d'élèves dépensent moins d'argent si tant est qu'on fournisse l'uniforme. Là, ça pose ensuite la question de la responsabilité de cet uniforme. Qui le paye la première fois? Si jamais il est endommagé, qui le paye la deuxième, etc., etc. C'est un petit peu comme pour l'introduction des tablettes il y a quelques années. Donc, pour nous, c'est pas forcément le débat à avoir en ce moment. Le vrai débat.
Mais il y a quand même une dimension sociale dans l'uniforme, hein, vous nous le dites. Ça fait réagir, hein, ce débat sur l'uniforme posé par la Première Dame, mais aussi par le Rassemblement National, hein, qui propose une loi là-dessus pendant sa niche parlementaire. Je précise que le ministre actuel de l'Éducation nationale, Papi Ndiaye, a pris résolument position contre l'uniforme. Jean-Yves nous appelle au 39-21, le Standard Europe 1. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir à tous, je suis ravi que vous m'ayez appelé.
On est ravis que vous soyez avec nous. Allez-y, Jean-Yves.
je voulais appuyer tout à fait ce qu'a dit l'auditeur précédent. Le problème de l'école, il n'est pas actuellement dans les costumes. Il est absolument dans le niveau d'éducation. Et il y a un énorme travail à faire pour élever le niveau, pour le relever, au moins en primaire. C'est catastrophique. Par contre, si on parle de costumes, j'ai deux points à souligner. Un point social, un point économique. J'ai vécu 15 ans en Angleterre, j'ai deux gamins qui sont nés en Angleterre, ça se passait comme ça. Il y avait des magasins qui étaient attachés aux écoles primaires, le prix des costumes était extrêmement bas, il fallait débourser un tout petit peu pour avoir des costumes, ces costumes étaient faciles à renouveler, et effectivement, les gamins arrivaient à l'école, ils se sentaient en confiance parce qu'ils étaient tous sur un pied d'égalité. Donc de ce côté-là, je vous assure que l'uniforme, alors l'uniforme, j'aime pas ce mot-là, c'est une connotation un peu militaire, mais ça n'en a
la
aucune.
Tenue unique, autrement, ça n'en a la tenue pas unique, ouais.
Voilà, une tenue, ça permet à tous les enfants de se reconnaître, de s'identifier. C'est un facteur de cohésion, c'est un facteur d'égalité, puisque notre pays quand même se targue de favoriser l'égalité entre les citoyens. Eh bien, il est bon de l'apprendre dès le premier âge à l'école. Cet uniforme, effectivement, apporte aux yeux des enfants un souci, comme un souci d'inégalité, et favorise l'intégration. J'en suis persuadé, je l'ai vu et j'en suis témoin. Voilà.
Merci beaucoup de votre témoignage absolument passionnant, Jean-Yves. Jean-Paul Brighelli est avec nous ce soir sur Europe 1. On l'a compris, hein, mettre un costard cravate aux garçons, une jupe polo aux jeunes filles, ça va pas relever le niveau en français ni en maths, mais c'est vrai, ce que nous a dit Jean-Yves, ça renforce la cohésion quelque part, ça peut diminuer la violence, qui est un autre problème de l'école actuelle.
Alors, je pense quand même que la cible, c'était les tenues, on va dire, communautaristes qui se voient à droite et à gauche. Sur la question de l'uniforme, j'aurais déjà apprécié quelque chose. Il n'y a jamais eu d'uniforme dans l'école publique française. Jamais.
La blouse.
Il y avait des blouses parce qu'on travaillait avec de l'encre.
Voilà.
Vous voyez, on protégeait les habits qu'on avait dessous. Et les blouses étaient d'ailleurs de couleurs tout à fait disparates. C'était pas forcément du gris uniforme. Donc, il y a les uniformes, par exemple, aux Antilles, au collège. Ça fait partie de la culture locale, comme il y en a en Nouvelle-Calédonie. Bien. Laissons les établissements libres. Il y a des conseils d'établissement libres de décider ce genre de choses, avec l'approbation des parents, etc. Je vois pas très bien, Brigitte Macron a la nostalgie, apparemment, elle l'a dit comme ça, des jupes plissées bleues et des petits pulls bleus sur chemisier blanc, avec probablement des vernis aux pieds. Bon, c'était la tenue type de l'école privée, catholique, hein, dans les années 60. On n'en est plus là. Hein. Et puis, c'est un combat d'arrière-garde. Alors, simplement, c'est pour finir sur une touche sympathique, j'ai demandé à ma fille, 13 ans, qu'est-ce que tu en penserais de mettre un uniforme ? Et elle m'a dit, si c'est pour ressembler à Hermione pendant que mes copains ressembleront à Harry, dans des établissements qui ressembleraient à Poudlard, et là, je suis pour.
Ah, ben, on comprend pourquoi là, vous nous parliez d'Harry Potter tout à l'heure.
Voilà. Oh. Mais là, on est dans la fantasmagorie. Mmh. Dans la pratique, c'est pas parce qu'on aura un uniforme qu'on va pas mettre des aux pieds des sneakers qui coûteront 200 euros pièce.
Merci beaucoup Jean-Paul Brighelli, enseignant, essayiste, grand connaisseur de l'éducation nationale. Merci également à Sébastien Vieille, professeur d'anglais et surtout secrétaire national du SNALC. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir été si nombreux à vouloir réagir au 39-21, le standard d'Europe 1. Il est toujours ouvert. On va parler de la réforme des retraites juste après une petite pause. À tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
L'exécutif dit ne pas se projeter vers une mobilisation massive, mais le président Macron et la première ministre Borne regarderont à n'en pas douter les chiffres et les images de la première journée de manifestation et de grève contre la réforme des retraites. Jeudi prochain, Front syndical uni, une première en 12 ans, de nombreux secteurs affectés et certains sont stratégiques. Le carburant, les trains, la CGT, la CFDT et autres tractent. Le gouvernement fourbit ses éléments de langage et le patronat dans tout ça. Favorable au décalage de l'âge de départ en retraite à 64 ans et à l'allongement de la durée de cotisation à 43 annuités, nous sommes avec François Asselin, président de la CPME, le patron des petites et moyennes entreprises, les patrons. Bonsoir, monsieur Asselin.
Oui, bonsoir.
Alors, à quoi vous attendez-vous jeudi prochain ?
Oh ben, comme tous les Français, à une journée sans transport, déjà, sans salariés parfois qui ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail. Bon, ben voilà, quoi. On est malheureusement habitué dans notre pays à ce genre de journée, quoi.
Qu'attendez-vous de la part du gouvernement dans la gestion de cette mobilisation ? Le gouvernement que je mets un peu dans votre camp, hein, je l'ai dit, vous êtes favorable, François Asselin, à la réforme des retraites.
Ben, si vous voulez, nous, à la CPME, ça fait quand même plus de 4 ans que nous travaillons sur le fond de la réforme des retraites. Et ce n'est pas simplement effectivement la mesure d'âge qui est importante, évidemment c'est la plus emblématique. Nous sommes attachés à la préservation des carrières longues. Et ça, nous l'avons obtenu. Nous sommes attachés au fait que des métiers qui sont physiquement plus exposés que d'autres, eh bien, soient pris en compte. Et ça, c'est pris en compte. Nous sommes aussi attachés, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs indépendants, et ce sont des chefs d'entreprise qui sont concernés, à ce que, eh bien, il y ait un minimum contributif, à savoir une retraite minimum, si on a travaillé pendant toute sa carrière, sans interruption, qui soit équivalente à 85% du SMIC. Et ça, nous l'avons obtenu. Donc, pour toutes ces raisons, on peut se dire que ce projet de réforme est quand même un projet qui est plutôt équilibré. Et si on se compare par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays très proches de nous, européens, Bah, écoutez, on n'a franchement pas beaucoup à se plaindre. Alors, on peut toujours se dire, il est urgent d'attendre, il n'y a pas besoin d'équilibrer le régime des retraites. Non, malheureusement, le principe de la réalité fait que si on ne fait rien, eh bien, notre régime sera déficitaire, et c'est facile à comprendre. Nous avons un système par répartition, ce sont les actifs qui permettent de payer les retraites des retraités. Et quand on voit l'évolution démographique de notre pays, eh bien, on voit très bien qu'on est parti dans une impasse si nous ne faisons rien.
Vous espérez donc que le gouvernement ne plie pas face aux mobilisations, aussi importantes soient-elles. François nous appelle au Standard d'Europe 1, le 39-21. Bonsoir François.
Bonsoir.
Vous appréhendez jeudi prochain ?
Alors pas du tout, parce que là je pense que même le gouvernement fait un super cadeau aux Français. Parce que quand vous regardez bien les pays européens, c'est 67 ans en majorité la retraite. Et ne descendent pas dans la rue ces gens-là. Les Allemands ne descendent pas dans la rue et ils travaillent un mois et demi de plus que nous.
C'est une autre culture, dirons-nous. Voilà.
Oui, mais enfin, ils ne descendent pas dans la rue. Bon, quand vous avez par exemple la RATP, là, des gens qui travaillent que 25 ans dans leur vie, qui touchent des 3 000-5 000 euros de retraite, qui c'est payé par le privé. Et aujourd'hui, au nez à la barre de tout le monde, c'est-à-dire qu'ils font des grèves pour empêcher les gens d'aller travailler. C'est les gens qui vont travailler pendant la grève qui vont payer la retraite à ces gens-là. C'est-à-dire qu'il serait bientôt temps de remettre tout à plat. C'est-à-dire que la fonction publique, elle a qu'à s'autofinancer toute seule, vu qu'ils sont très 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 bien bavards, ils trouvent des solutions pour tout, mais quand c'est pour la retraite à répartition, ils sont d'accord, mais quand c'est pour y participer quelques années de plus, ils ne sont pas d'accord.
Alors, c'est donc, pas prévu si dans le projet de réforme des retraites du gouvernement.
Eh bien, c'est un tort.
C'est pas pour
eh
cette
bien,
fois-ci.
C'est un tort.
Mais j'ai,
eh bien, c'est
j'ai
un
quand
tort.
Même l'impression que vous soutenez une réforme. Hein.
Ben, il faut réformer, vous rendez compte, tout est en faillite. L'État a 3 000 milliards de faillite.
Mais il faut aller encore plus loin. Alors,
il faut aller encore plus loin, mais beaucoup plus loin.
On a un représentant de la CPME qui est avec nous, François Asselin.
Ah ben, c'est François qui va répondre à François. François, avec ses mots, a tout à fait raison. Hein, c'est-à-dire que le principe de la réalité, vous savez, on ne peut pas y échapper. Hein, il y a d'abord la démographie, hein, qui est ce qui est. Et ça, comme je vous dis, un système de retraite par répartition, ce sont les actifs qui payent les retraites des retraités. Et quand on voit que le déséquilibre va aller en s'accentuant, il faut la seule solution, c'est d'augmenter la durée de cotisation, donc la durée pendant laquelle nous allons travailler. Je dirais simplement une chose. Lorsqu'en 1983, les Français sont passés de 65 ans à 60 ans à leur retraite. Depuis 83, nous avons gagné 8 ans d'espérance de vie. C'est magnifique quand même. Hein ? Alors, je pense que si on voulait être responsable et faire en sorte qu'on puisse maintenir le niveau des pensions tel qu'il est, et même mieux l'améliorer, si on veut faire en sorte de ne pas continuer à faire la poche de nos enfants et de nos petits-enfants, eh bien j'aimerais... en responsabilité qu'on arrive à faire cette réforme. Et je serais fier, moi, à 58 ans, de faire partie de cette génération qui aura pu dire à ses enfants, bah, écoutez, j'ai peut-être fait une chose de bien dans ma vie, c'est que j'ai fait en sorte de vous préserver pour que plus tard, vous puissiez avoir votre retraite.
Merci beaucoup François Asselin, président de la CPME, les patrons des petites et moyennes entreprises. Merci également à François qui nous a appelé au 39-21. Dans quelques instants, nouveau point sur l'information avec Hélène Zélani. A tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h,
Raphaël Delvolvé.